Paul, apôtre de Jésus-Christ par appel, par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été consacrés en Jésus-Christ et qui sont saints par appel, avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est leur Seigneur comme le nôtre, grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que Paul salue l'Église qui est à Corinthe. Et aujourd'hui, à nous qui sommes rassemblés au foyer de l'âme, en présence ou à distance, à nous est encore adressée cette bonne nouvelle, grâce et paix, à vous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Paul poursuit un peu plus loin. Regardez, mes frères et mes sœurs, comment vous avez été appelés. Il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour faire honte aux sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour faire honte à ce qui est fort. Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde, ce qu'on méprise, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, de sorte que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Or, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui a été fait pour nous sagesse venant de Dieu, mais aussi justice, consécration et rédemption, afin, comme il est écrit, que le fier mette sa fierté dans le Seigneur. Ainsi, chacun de nous est bien à sa place ici. À personne, il n'est demandé de devenir noble, puissant ou sage. À personne, il n'est demandé de prouver quoi que ce soit, ni de payer quoi que ce soit. À personne, il n'est demandé de laisser à la porte de ce temple ou de ce culte la joie et la paix, les luttes et les consolations, les douleurs et les remords, les choix et les questions, les protestations et les inventions, tout ce qui remplit nos êtres et nos vies. Mais chacun, chacune de nous, tel qu'il est, telle qu'elle est invitée à écouter, à être attentif à cette voix, à ce souffle, à ce frémissement au plus profond de l'être qui nous appelle, qui nous saisit, qui nous relève. Je vous invite à louer l'Éternel. Veuillez vous lever. Éternel Dieu, merci pour ce monde dans la richesse de sa diversité. Ce monde en marche, en mouvement, en attente, en enfantement, qui s'agite et bouillonne sans cesse, où tout meurt et renaît sans fin, merveille de ta création, où toujours la vie rejaillit. Merci parce qu'au-delà et à travers les malheurs, les haines et les peurs et les pleurs, malgré les souffrances, les erreurs, par-dessus les silences, les morts et le mal, tu maintiens la vie pour les vivants. Merci parce que tu es la force qui nous transforme, qui nous libère et nous unit. L'eau de joie qui déborde dans les déserts d'ennui, la flamme au fond des couloirs d'ombre, le vent qui ébranle les murs où meurt la vie. Merci, Éternel, d'être la puissance de l'amour qui nous guide au chemin d'éternité. Amen. Et nous poursuivons la louange avec le chant du psaume 23. Dieu, mon berger, me conduit et me garde.
Je
Prenez place. Nous nous recueillons chacun et ensemble dans la prière. Éternel notre Dieu, toi qui étais, qui es, qui sera, toi qui es vie et amour, justice, liberté et paix, nous voici et voici, tout est là, nos inquiétudes, nos peurs, nos scénarios catastrophes, notre découragement, notre sentiment d'impuissance ou de culpabilité, et aussi notre colère, nos sentiments d'injustice. Éternel, voici tous et toutes sont là. Tous nos proches, quels que soient les partis pour lesquels ils ou elles votent, des personnes sans emploi et celles qui n'ont pas de biens, qui ne peuvent subvenir à leurs besoins. Les demandeurs d'asile, les personnes discriminées en raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur religion, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Éternel, voici, tout est là. Quand nous comprenons et quand ça nous dépasse, quand nous avons peur et quand nous prions, quand nous doutons et quand nous croyons, quand on parle de toi, et quand tu parles en nous. Éternel, tout est là, et toi, tu recueilles tout. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 257. Dieu des louanges soit béni. Et avant de lire dans les Écritures, nous prions. Notre Dieu, nous vivons dans tant de bruit et d'inquiétude. Nous n'entendons pas toujours ta parole quand elle passe à travers le vieux livre de la Bible. Ta parole cachée au cœur du monde, au cœur de nous-mêmes. Alors nous voici pour que, par ton esprit, se rejoignent en nous, parmi nous, cette parole, ta présence profonde et ton dynamisme créateur qui travaille nos vies, nos pensées et nos cœurs. Amen. Et nous lirons aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur la feuille bleue qui se trouvait dans les Cantiques, nous lirons dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 1 à 9. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans l'ensemble de l'Achaïe, grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de toute magnanimité et le Dieu de tout encouragement, lui qui nous encourage dans toutes nos détresses, afin que, par l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de Dieu, nous puissions encourager ceux qui sont dans toutes sortes de détresse. De même, en effet, que les souffrances du Christ abondent pour nous, de même aussi notre encouragement abonde par le Christ. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre encouragement et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour que vous ayez la force d'endurer les mêmes souffrances que nous. Et notre espérance à votre égard est ferme, car nous le savons. Comme vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à l'encouragement. En effet, frères, nous ne voulons pas que vous ignoriez la détresse que nous avons connue en Asie. Nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces. Nous désespérions même de rester en vie. En nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort. C'était pour que nous ne mettions pas notre confiance en nous-mêmes, mais dans le Dieu qui réveille les morts. Voici 2 semaines, lors du culte musical, nous avons médité avec quelques textes des Écritures autour de l'espérance. Et aujourd'hui, nous regardons de l'autre côté du temple. Oui, l'espérance est là. Et de l'autre côté, vous avez la confiance. C'est un autre mot. Inscrit comme un pilier, d'ailleurs en haut d'un pilier, comme un pilier à la fois de l'Église qui se réunit ici et ailleurs, et un pilier de la vie personnelle de chacun, de chacune. Confiance, pas plus qu'espérance, n'est donc un mot enfermé entre ces 4 murs. C'est un mot pour sortir du foyer, un mot à emporter, autant qu'un mot porteur. Tant il est vrai qu'il fait partie de ces mots dont un poète disait que ce sont des mots qui font vivre. Alors en ces jours, en ce jour d'élection, où se mêle la peur de ce que pourrait être ce soir et demain le visage de notre pays à nos yeux et aux yeux du monde, avec l'espoir que le pire quel que soit le pire pour vous, l'espoir que le pire puisse être évité, et aussi quelques résolutions selon le résultat des urnes, il n'est pas superflu de poser sur ce mélange la confiance. Il n'y a là aucun optimisme, ni de prière à un Dieu qui pourvoira à ce que chacun de nous voudrait. Aucune intention d'estomper l'épreuve. Mais la conviction profonde, vissée au cœur, chevillée à l'âme, que vivre a à voir avec la confiance. Vivre selon la vocation qui est celle de l'humain, puisque être né ne suffit pas. L'apôtre Paul a eu à traverser une épreuve extrême, une détresse extrême, au-delà de ses forces. Nous désespérions de rester en vie. En nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort. L'apôtre rapporte rapidement plus loin dans l'épître ce qu'il a eu à endurer tout au long de son ministère. Les naufrages, la faim, la soif, les bandits et les persécutions, les coups, les lapidations, les emprisonnements. Paul s'est retrouvé plusieurs fois en danger de mort. Et en Asie, écrit-il, il a bien pensé que c'était la fin. Nous ne savons pas précisément à quoi il fait allusion. Le livre des Actes, de son côté, mentionne qu'à Éphèse, en Asie, où Paul est resté près de 3 ans, il s'est retrouvé en butte à des complots de certains membres de la synagogue, tandis que d'autres se ralliaient à la bonne nouvelle qu'il annonçait. Et il s'est trouvé aussi en proie à une importante émeute provoquée par les artisans liés au culte d'Artémis d'Éphèse. Les artisans craignant que le succès de la prédication de Paul ne détourne trop de monde de la déesse qui fait la fortune de la ville. C'était donc une émeute pour cause de chiffre d'affaires. Mais Paul reste très discret dans le passage que nous avons lu. Il en dira plus un peu plus loin dans l'autre lettre, puisque ce que nous appelons la deuxième épître aux Corinthiens est composée de 2 lettres assemblées. Il en dira plus dans l'autre lettre, parce que le conflit avec les Corinthiens se sera envenimé. En nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort. C'était pour que nous ne mettions pas notre confiance en nous-mêmes, mais dans le Dieu qui réveille les morts. Dans cette détresse extrême, au-delà de ce qu'il peut supporter, Paul fait face à la mort, parce qu'il n'a plus de force et parce qu'il n'y a plus d'issue. Il n'en voit plus pour éviter la mort. Cette détresse, c'est aussi l'angoisse. Et le terme grec pour dire détresse ou angoisse renvoie à un passage resserré, tellement resserré que l'air ne passe plus, que le souffle est étranglé. Si la mort n'est peut-être pas le pire pour Paul, c'est quand même la fin de sa vie entièrement consacrée à l'annonce de la bonne nouvelle. L'acceptation de la mort n'est ni optimisme de ce qu'il y aurait dans l'au-delà, ni espoir, ni déni, parce qu'il n'a plus de ressources ni de force. Cette acceptation de la mort ne lui laisse plus que la confiance en Dieu. Non pas pour être sauvé par une intervention divine, mais parce que, devant la mort, Paul fait l'expérience de l'impuissance et du dénuement les plus extrêmes. Il n'a plus rien à lui. Il n'a plus que la confiance en Dieu. À ce moment où il voit la mort arriver, il n'est plus que par et dans sa confiance en Dieu. Et le mot traduit par confiance, dans la lettre de Paul, ce n'est pas le mot « foi » en grec. De même qu'il n'est pas inscrit « foi » là-haut dans le temple. Il est inscrit « confiance ». Alors bien sûr, vous me direz que la foi est une confiance, et vous aurez raison. Une confiance extrême, fondamentale, essentielle. Confiance en Dieu qui fait vivre, en Dieu qui réveille les morts, écrit Paul. Cependant, dans le texte, sur le mur, il n'est pas question de foi, mais de confiance. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi Charles Wagner a choisi confiance plutôt que foi dans un temple. Mais j'aime à penser que le pasteur qui se souciait tant d'humanité voulait faire considérer à l'assemblée au foyer de l'âme à quel point l'humanité tient à la confiance, à quel point être humain et cultiver son humanité passe par la disposition à la confiance dans tous les domaines où la confiance s'exerce. Et il y en a au moins quatre. Il y a la confiance en la vie, la confiance en autrui, la confiance en soi et la confiance en Dieu, celle qui est foi et qui n'est pas sans répercussion sur les trois autres. La confiance en la vie, c'est ce qui nous fait nous lever le matin pour commencer notre journée, en dépit des risques, un accident, une maladie, une perte, une rupture. Cette confiance, à laquelle nous ne pensons pas forcément de manière consciente tous les matins, mais cette confiance peut être ébranlée, elle peut même être détruite. Par exemple, pour qui est obligé de fuir sa maison bombardée ? Pour qui est arraché à sa vie prisonnier ou otage d'un groupe hostile? Pour qui est soumis à une catastrophe naturelle, aux effets du dérèglement climatique? La confiance en autrui, elle, nous vient de l'expérience que nous faisons qu'autrui tient parole, qu'il n'abuse pas de ses avantages à notre détriment, qu'il ou elle fait preuve de discrétion et de discernement quant à ce qu'il sait à notre sujet. Cette confiance peut être aussi déçue, et nous nous retrouvons alors blessés, en colère, parfois en proie à l'amertume et au ressentiment destructeur. Cependant, cette confiance donnée et reçue est véritablement créatrice. Elle a de l'effet sur qui la reçoit et sur qui la donne. Et c'est un effet de grandissement, d'élargissement, un effet d'émerveillement, un effet de gratitude. Martin Luther disait que cette confiance, même entre deux personnes, venait déjà de Dieu. Ainsi, la confiance en soi vient de la confiance donnée et reçue, la confiance qui nous est témoignée. Nous avons confiance en nous parce qu'on nous a fait confiance. Alors cette confiance aussi peut manquer, être minée, être détruite par de mauvais traitements, à tout âge. Et le travail pour la reconstruire est toujours long. Notre confiance en nous n'est pas fonction de nos qualités ni de nos compétences. Elle nous vient toujours d'ailleurs, d'autres que nous. En ce sens, elle n'a rien à voir avec l'orgueil, avec la suffisance, avec l'ambition, mais beaucoup plus avec le courage d'être soi et le courage de pouvoir aller au-delà de soi. Enfin, la confiance en Dieu, celle que nous appelons la foi, signifie que celui ou celle qui croit reconnaît en Dieu le créateur de la vie, de l'amour, de la liberté, celui qui les donne parce qu'il est lui-même vie, amour, liberté. Celui ou celle qui reçoit vie, amour et liberté est ainsi reconnu. C'est comme si il ou elle entendait Dieu lui dire « Oui, cela, la vie, l'amour, la liberté, c'est pour toi. Car c'est toi qui es là, infiniment unique et précieux. » Cette reconnaissance de l'être, c'est un jugement. Mais ce n'est pas un jugement qui condamne, c'est cette sorte de jugement qui fait exister. C'est la justice de Dieu. À son tour, celui ou celle qui croit reconnaît en Dieu le Dieu vrai qui donne la vie véritable, une reconnaissance qui est à la fois qui est la somme de la gratitude et de la connaissance. Celle qui permet à l'auteur de la première épître de Jean d'écrire que Dieu est amour, ou celle qui permet à Paul d'écrire un peu plus loin aux Corinthiens, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. La foi, c'est ce mouvement en retour de reconnaissance, et la reconnaissance est toujours créatrice de vie. Elle est toujours du côté de la vie. C'est pourquoi la confiance qu'est la foi irrigue les trois autres formes de confiance qui construisent l'humanité de l'humain. La foi les précise et les vivifie. La foi élargit la confiance en la vie au-delà du fait d'être vivant, dans la dimension spirituelle qui fait que l'humain est corps et esprit intimement liés, est présent et agissant dans le monde. La foi invite à reconnaître en chacun et en chacune une personne reconnue de Dieu, non pour une confiance aveugle, mais pour une disposition à la confiance qui est capable de ressusciter. Il y a encore une nouvelle chance. Et puis la foi assure la confiance en soi dans un lieu inaltérable, qui est la confiance de Dieu en chacun et chacune. Non pour que nous nous surestimions par orgueil ou par vanité, mais parce que rien ne peut amoindrir l'amour de Dieu pour nous, ni réviser son jugement de reconnaissance qui nous fait devenir vivants. Et ce, même devant la mort, même dans la détresse la plus angoissante comme celle que Paul a traversée en Asie. Paul ne s'en est plus tenu qu'à Dieu, parce que c'est Dieu qui tenait Paul. Le Dieu qui réveille les morts et le Dieu créateur et libérateur qui suscite la vie et la vie en réponse, c'est-à-dire en responsabilité, même quand il n'y a plus d'espoir. Et ce que Paul a gardé de cette épreuve, ce n'est pas de la rancune, ce n'est pas de l'amertume, ce n'est pas une volonté de vengeance, ce n'est pas de la détestation pour ceux ou ceux qui l'avaient conduit à cette extrémité. Paul ne devient l'ennemi de personne. Il n'entre pas en guerre. Et pourtant, il avait de quoi avoir peur. Il avait de quoi être en proie à la reine si quelques-uns l'avaient mis dans cette situation d'extrémité de sa vie. Mais l'apôtre ouvre une autre voie, et pas seulement pour lui. Il la montre aux Corinthiens, et nous la voyons également. La foi qui fonde l'humain en Dieu et non en lui-même, cette foi ouvre un espace par rapport à soi, un espace dans le rapport à soi-même, qui n'est plus alors ce que Paul désigne comme la vie selon la chair, c'est-à-dire la vie fondée sur soi, mais un rapport distancé, critique, assurée ailleurs qu'en soi, assurée en Dieu. Et c'est la vie selon l'Esprit. C'est l'expression de Paul. Dans cette autre manière d'être et de vivre, la reconnaissance est à l'œuvre. Elle est même à la manœuvre. Et elle crée un accroissement d'être et de vie qui n'est pas replié sur soi, qui n'est pas limité à ça, mais qui déborde et entraîne vers autrui. Lorsque nous éprouvons de la reconnaissance pour ce que nous avons reçu, nous sommes transformés. Et notre manière d'appréhender le monde l'est aussi, notre manière de vivre également. Et parce que la reconnaissance est articulée à la confiance, notre capacité à la confiance est augmentée, c'est-à-dire notre ouverture d'être à autrui, à la vie qui vient et à ce que la vie porte. Alors même autant d'épreuves, autant d'angoisses, il est possible de discerner ce que la vie, ce que les circonstances, ce que celles et ceux qui sont là peuvent attendre de nous. Il ne s'agit pas d'attendre quelque chose de la vie, des circonstances ou d'autrui, mais de chercher ce qui est juste, de chercher comment agir ce qui est juste, selon ce qui va vers la vie, l'amour et la liberté, sans discrimination. La confiance, c'est le point d'appui sur lequel la vie se construit et se développe. La vie vivante. Et lorsque vient une crise, une peur, une adversité, il nous est possible de résister à la tentation de devenir ou de fabriquer un ennemi. Il est possible de résister à la tentation du sacrifice d'autrui considéré comme bouc émissaire de toutes nos angoisses. Il nous est possible de nous tenir en attention, en vigilance. Et pour le dire avec un autre mot que Paul emploie abondamment dans ces quelques lignes, de nous tenir en encouragement. L'encouragement envers toutes celles et ceux qui sont en affliction, en détresse, en angoisse. Alors certes, Paul s'adresse à des Corinthiens, à des croyants. Mais nous croyons que la manière d'être et de vivre renouvelée dans la confiance et dans la foi, cette manière n'est pas réservée aux relations avec les croyants, aux relations dans une communauté de foi ou avec seulement nos proches. Cette manière de vivre se vit dans le monde avec toutes celles et ceux qui sont autour de nous. Par la confiance que nous avons reçue et qui se déploie grâce à la confiance de Dieu en nous, la confiance d'autrui en nous, nous sommes encouragés et nous pouvons encourager. Encourager ou encore exhorter ou encore consoler, le terme grec est vaste, il enveloppe tout cela, il enveloppe également l'avocat, celui qui se tient auprès de qui a besoin d'aide. Le terme d'encouragement traduit bien l'élan de vie pour la vie malgré l'adversité. Vas-y, allons-y. L'encouragement vient à travers une voix qui appelle, qui réveille, qui relève. Il vient à travers une présence assurant une reconnaissance qui n'est pas forcément approbation de ce que l'autre a dit ou fait, mais toujours justification de son être. L'encouragement est déjà un témoignage de confiance. Et Paul insiste sur cette dynamique divine et créatrice qui commence en Dieu. Mais quiconque a reçu cette reconnaissance, confiance, encouragement de Dieu devient à son tour source de reconnaissance, confiance, encouragement pour d'autres. Et nous comprenons bien que cela est profondément en lien avec la grâce, avec la justification par la grâce. L'encouragement en est un fruit, une facette miroitant largement dans l'humanité de l'être humain. Car il ne s'agit pas d'encourager à faire ceci ou à faire cela à prendre telle ou telle partie, à se diriger de tel ou tel côté, mais il s'agit d'encourager à vivre de la vie vivante. Il s'agit d'encourager à discerner, à ressentir le désir de la vie vivante. Et ce sera toujours au risque de n'être pas entendu. Parce que l'encouragement, comme la reconnaissance, comme la confiance, est absolument incompatible avec toute volonté de puissance. Alors nous nous souvenons de celles et ceux dont l'existence, la parole, la main, le soin nous ont un jour encouragés, consolés, dans les ténèbres ou dans le brouillard, de celles et ceux qui, pour nous, ont ravivé, relayé l'appel de Dieu dans le brouhaha du monde, dans la cacophonie du temps. Nous nous souvenons d'un amour, d'une amitié, d'un regard croisé, de quelques notes de Bach, de quelques lignes d'un poème qui nous ont soulagés de la culpabilité, du poids de l'absurde et de ce qui nous figeait, nous dévitalisait comme la mort, en nous donnant à nouveau de goûter notre propre singularité reliée à plus qu'elle-même. Et puisque nous avons remonté le texte de Paul, de la confiance et de la confiance en Dieu à la détresse, à l'encouragement, nous voici arrivés à la bénédiction. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de toute magnanimité, de toute bonté, et le Dieu de tout encouragement. Cette bénédiction résonne comme une louange, ce qu'elle est, en réponse à la grâce, à la reconnaissance, à la confiance. C'est que l'épreuve n'empêche pas la louange. Et aujourd'hui, ce soir et demain, la louange et la bénédiction diront ce qui fonde notre humanité, malgré tout. Amen. Je vous invite à vous lever pour mieux vous associer à la confession de foi, à ces mots du pasteur Dietrich Bonhoeffer. Je crois que Dieu peut et veut faire naître le bien à partir de tout, même du mal extrême. Pour cela, il a besoin d'êtres humains pour lesquels toutes choses concourent au bien. Je crois que Dieu veut nous donner, dans toute situation difficile, la force de résistance dont nous avons besoin. Mais il ne la donne pas d'avance, afin que nous ne comptions pas sur nous-mêmes, mais sur lui seul. Dans une telle foi, toute peur de l'avenir peut être surmontée. Je crois que nos fautes et nos erreurs aussi ne sont pas vaines, et qu'il n'est pas plus difficile à Dieu d'en venir à bout que de nos prétendues bonnes actions. Je crois que Dieu n'est pas une fatalité hors du temps, mais qu'il attend nos prières sincères et nos actions responsables et qu'il y répond. Il pousse à cette foi active et mature, cette foi qui pose tout homme à des actions responsables et libres dans la société dans laquelle il évolue, travaille et vit. Amen. Et nous chantons au cantique 242. Nous t'invoquons, ô Seigneur. Prenez place. Voici quelques annonces pour ce dimanche. Et puisque c'est dimanche, c'est le jour de la collecte au bénéfice de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement. Cette collecte aura lieu tous les dimanches jusqu'au dernier dimanche de juillet. En août, il n'y en aura pas puisque le foyer de l'âme sera fermé, mais l'épicerie solidaire est aussi fermée en août. Vous pouvez apporter les produits qui sont indiqués sur les listes affichées dans l'entrée ou tout autre produit alimentaire, d'hygiène ou d'entretien, en veillant pour les conserves et les plats préparés que la date de péremption soit suffisamment éloignée, puisque les produits ne seront pas apportés avant septembre maintenant. Et comme tous les dimanches du mois de juillet, il y aura également, après le culte, un repas à partager où chacun peut venir avec ce qu'il a préparé, avec ce que vous allez acheter au marché ou avec rien du tout. On partage, c'est le principe de ce repas. Et un repas, une table conviviale, c'est-à-dire aussi une table d'encouragement, de consolation, d'amitié. Donc tous les dimanches jusqu'au 26 juillet inclus. Dans la semaine, il y aura également, comme toutes les semaines du mois de juillet, mardi 2 à 19h30, un partage biblique dans la salle du deuxième étage, sur la terrasse si le temps le permet. Mardi dernier, ça ne le permettait pas. Et ce mardi, je vous propose dans le cycle Chemin de terre, chemin spirituel, de nous intéresser à l'épître à Philémon. Une toute petite épître, pas toujours bien connue, où nous pouvons suivre dans l'aller et retour d'Onésime, de Philémon à Paul et de Paul à Philémon, ce qui est en jeu. Et c'est très important, puisqu'il y est question de grâce, de liberté, de fraternité et de communion. Voilà, donc 19h30, mardi 2, et jeudi 4 à 12h30 dans le temple, comme tous les jeudis, la pause spirituelle. Et dimanche prochain, bien sûr, la collecte, le culte, avec la charité. Nous ferons le tour du temple cet été, pour mieux en sortir. Donc la charité dimanche prochain. Et donc nous terminerons par le labeur, enfin nous poursuivrons avec le labeur le dimanche suivant. Ah ben oui. et donc un repas aussi après le culte dimanche prochain. Voilà, et puis pour ce dimanche, si vous pouvez aller voter, faites-le. Est-ce qu'il y a d'autres annonces à partager ? Alors c'est le moment de l'offrande, qui est aussi un geste de confiance, un geste de liberté et un geste de joie. Alors trouvons tout cela dans notre cœur pour que le geste soit accordé. Et je vous invite à la prière d'intercession en nous laissant habiter ces mots d'André Dumas. Notre Dieu, nous sommes en solidarité avec celles et ceux qui vivent dans le danger et dans le combat. De loin ou de près, nous partageons leur détresse et leur espoir. Apprends-nous à étendre nos vies au-delà de nous-mêmes et à étirer notre cœur jusqu'aux frontières où les humains souffrent et transforment le monde. Mets-nous en solidarité avec l'étranger que nous ignorons, avec le démuni que nous effaçons, avec le prisonnier que nous évitons. Notre Dieu, que la solidarité soit aussi un nom actuel pour cette fraternité à laquelle tu nous appelles sans cesse. Notre Dieu, rends-nous solidaires dans la vérité et non pas dans le mensonge des tactiques. Délivre-nous de toute solidarité qui tournerait à la partialité destructrice, qui nous entraînerait dans la captivité de nos propres amis. Car tu nous veux solidaires, mais non pas partisans. Toi qui as pris parti pour nous, sans jamais nous mentir sur nous-mêmes. Ô notre Dieu, rends-nous solidaires dans l'efficacité et non pas dans le verbalisme des déclarations. Délivre-nous de toute solidarité qui tournerait à l'inflation vaine et qui nous plongerait dans la paille des mots sans le grain des choses. Car tu nous veux solidaires, mais non pas tribuns. Toi qui es toujours parole unie à la vie, parole en acte, fût-ce dans le silence. Ô notre Dieu, rends-nous solidaires dans l'espérance et non pas dans la dramatique des catastrophes. Délivre-nous de cet obscur besoin que nous avons parfois de la souffrance humaine, comme si la souffrance pouvait être un quelconque bien, sauf pour celui qui dure en l'endurant. Car tu nous veux solidaires et non pas prophètes de malheur. Toi qui as toujours voulu pour les humains la justice et la liberté, la joie et la paix. Ô notre Dieu, rends-nous solidaires en humilité, car nous ne sommes pas capables de porter la terre entière. Délivre-nous de l'accablement qui n'aide personne et de la pitié qui empoisonne tout. Car tu nous veux solidaires de celui ou celle dont nous devenons vraiment le prochain. Notre Dieu, purifie nos solidarités, rends-les vraies, fécondes, ardente et humble. Nous te le demandons au nom de celui qui a été résolument solidaire de tout humain abandonné et méprisé, Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère, avec qui nous te disons, à voix haute ou dans le secret du cœur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation, puis nous chanterons le dernier cantique, le 279, avant la bénédiction. Une exhortation très brève avec ce morceau de verset du livre du prophète Ésaïe, au chapitre 30. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amis, frères et sœurs, que Dieu nous bénisse avec l'inconfort devant les réponses faciles, les demi-vérités et les relations superficielles, pour que nous puissions vivre du plus profond de notre cœur. Que Dieu nous bénisse avec la colère contre l'injustice, l'oppression et l'exploitation des créatures de Dieu, afin que nous puissions travailler pour la justice, la liberté et la paix. Que Dieu nous bénisse de larmes à verser pour ceux qui souffrent à cause de l'exclusion, de la faim, de la guerre, afin que nous puissions tendre la main pour les réconforter et les encourager. Et que Dieu nous accorde juste assez de folie pour croire que nous pouvons faire une différence dans le monde, pour que nous puissions faire ce que d'autres prétendent impossible, apporter la justice et la bonté à nos enfants et à nos voisins. Amen.